Vous écoutez France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Michael Ferrier, qui publie Fukushima, récit d'un désastre, chez Gallimard dans la collection L'Infini. Quand même, c'est énorme cette histoire. Tout ce qu'on pensait impossible il y a quelques mois. Nous vivions dans un autre monde. En même temps, quelque chose de nouveau se dégage. Les emmerdeurs n'ont pas tous quitté Tokyo, loin de là, il en reste quelques-uns, mais au moins, on sait pourquoi on est là. Les rires fusent toujours dans les ruelles. À la moindre éclaircie, la ville resplendit de plus belle. Personne ne peut rien contre ça. Les emmerdeurs n'ont pas tous quitté Tokyo, Michael Ferrier, c'est ce que vous écrivez.
Loin de là.
Mais vous avez quitté Tokyo, vous n'y êtes plus, pour une année au moins.
Voilà, je suis éloigné de Tokyo pour une année, mais je vais y faire de fréquents séjours, même pendant cette année. Pour expliquer un peu la situation, j'habite toujours à Tokyo, je suis toujours résident au Japon, mais j'ai une année sabbatique. Voilà.
Au Japon, où vous enseignez ?
Oui, où j'enseigne à l'université Chuo, à Tokyo.
Et vous partagez votre temps entre l'enseignement et l'écriture ?
Oui, l'écriture, l'enseignement, un peu de télévision, un peu de radio également.
Ce que vous écrivez, ce sont des romans et des essais. Vous avez d'abord publié un essai, La tentation de la France, La tentation du Japon, Regard croisé. C'est un livre collectif que vous aviez dirigé chez Piquet il y a une dizaine d'années. Ensuite, un essai sur Céline.
Oui.
Céline et la chanson. Et puis un roman, Kizu, la lézarde.
Oui.
Chez Arléa. Ça, c'était en 2004. Avant de franchir le pas vers la collection L'Infini de Philippe Soler chez Gallimard, où vous avez publié deux romans avant le livre dont nous allons parler ce soir. Tokyo, Petit portrait de l'aube, en 2004. Et Sympathie pour le fantôme en 2010. Vous étiez venu d'ailleurs nous parler de...
J'étais venu vous parler de Tokyo, Petit portrait de l'aube.
Voilà. Et puis, il y a eu un recueil d'essais, Japon, la barrière des rencontres, chez Cécile Defaux en 2009. En fait, quand vous écrivez, c'est toujours, si je vous ai bien lu, pour découvrir le point de faille, la fissure, la lézarde. Justement, qu'il y a dans tous les discours qui prolifèrent.
Oui, il me semble qu'il y a dans l'écriture, c'est en tout cas ma façon de voir. Ce n'est sans doute pas la seule possible, mais c'est la mienne. Et, j'écris effectivement pour déblayer un peu, voilà. Pour faire place vide, pour faire place nette. Il y a quelque chose dans l'acte d'écrire qui, pour moi, permet de faire apparaître, si vous voulez, une expérience, un peu comme du cristal, ou un peu comme quand on nettoie puisqu'on va parler de Fukushima, du tsunami, de la boue, de la glaise, un peu comme quand vous trouvez une statue dans la boue, et vous la nettoyez patiemment, d'un geste minutieux, un peu répétitif, et puis vous extrayez quelque chose.
Mais comment l'atteindre, ce point de faille, avec des mots quand on est écrivain et qu'on fait de la littérature ?
Oui, ben, c'est tout l'enjeu, c'est toute la difficulté. En même temps, si on ne le fait pas, qui va le faire ?
C'est-à-dire qu'il faut commencer par oublier la littérature ?
L'oublier, je ne sais pas. D'ailleurs, je ne sais même pas ce qu'on appelle littérature. Est-ce que Fukushima, Récit d'un désastre, par exemple, est un texte littéraire ? On me dit que oui. Je veux bien le croire, on pourrait aussi le classer parmi les essais, parmi les documents. On ne le classera pas de la même manière à l'étranger et en France. À l'étranger, je pense qu'il sera classé dans ce qu'ils appellent la non-fiction. Les livres, on leur met des étiquettes ensuite, et c'est normal, il faut les classer, il faut les catégoriser sans doute pour pouvoir en parler, pour pouvoir les ranger aussi. Mais quand ils s'écrivent un peu comme sous le coup d'une énergie. C'est un peu une catastrophe naturelle, un livre aussi. Et il vient comme ça en éruption et après, évidemment, les critiques font leur travail et posent leurs étiquettes.
Là, il y a une référence que vous avancez. Vous dites avoir songé, écrivant ce livre, à l'espèce humaine de Robert Antelme.
Tout à fait, qui est aussi un livre extraordinairement difficile à classer, puisque on peut pas dire que c'est un roman, loin de là. Est-ce que c'est une fiction ? Je ne sais pas. Enfin, voilà un bon exemple, l'espèce humaine de Robert Antelme, un texte qui semble surgi de nulle part et qui existe. Une autre de mes références que je cite également pour ce livre, ce sont les notes de Hiroshima, Doe Kanzaburo, le prix Nobel de la littérature japonais. Et là aussi, le livre Notes de Hiroshima de Doe est un livre assez difficile à classer. C'est une série de reportages écrits donc pour un journal dans les années 50-60 et qui ont été ensuite repris, ces reportages, dans un cahier, un livre donc. Est-ce que c'est un essai ? Est-ce que c'est un recueil de textes ? Là encore, finalement, il arrive un moment où l'écriture, l'art en général, dépasse l'histoire de l'art. Où l'écriture dépasse l'histoire des genres littéraires. C'est-à-dire qu'il arrive un moment toujours où les catégories esthétiques ne sont plus suffisantes pour rendre compte de la formidable énergie et dans le cas d'Doé et d'Antelme, de la formidable intelligence qui s'exprime dans l'acte d'écrire de certains écrivains.
On cite Antelme, ça appelle peut-être un autre nom, celui de Maurice Blanchot, qui parle, lui, d'écriture du désastre, expression que vous ne reprenez pas à votre compte, vous parlez plutôt d'écrire dans le désastre.
Oui, Maurice Blanchot est un écrivain qui est assez absent de mes références. Je n'ai pas songé à lui quand j'ai écrit Fukushima, récit d'un désastre. J'ai plutôt songé donc à Antelme, Oé, on l'a dit. J'ai songé à Georges Perec aussi, paradoxalement. La troisième partie de ce livre s'appelle « La demi-vie, mode d'emploi ». C'est un clin d'œil évident à Georges Perec. Ce n'est pas un clin d'œil anecdotique ou gratuit. Dans cette troisième partie, je parle des effets de la radioactivité sur la vie quotidienne. Et Georges Perec avait compris depuis très longtemps que beaucoup de choses de la vie moderne allaient se jouer à ce niveau-là, c'est-à-dire ce qu'il appelle l'infraordinaire, dans les interstices de la vie de tous les jours. Donc cette référence à Perec, cette fois-ci, je ne sais pas pour ce qu'il en sera pour les prochains livres, où je convoquerai peut-être Blanchot, je n'en sais rien, mais en tout cas la référence à Antelme, à Oé et à Perec, dans ce livre-ci, est beaucoup plus importante, évidemment.
Alors, le désastre, Michaël Ferrier, la catastrophe, c'était déjà le sujet de ce livre que j'ai cité tout à l'heure, « Sympathie pour le fantôme », où votre narrateur, qui du reste a le même prénom que vous, Michaël, qui, comme vous, est professeur, mais aussi animateur de télé à Tokyo, disait avoir pris la décision d'écrire au soir de la tempête, de la terrible tempête qui a traversé la France en décembre 1999.
Oui, vous faites bien de le remarquer. Je n'avais pas fait le rapprochement, à vrai dire. Pour vous dire la vérité, je n'avais pas fait le rapprochement. Mais c'est vrai que dans Sympathie pour le fantôme, le narrateur écrit, prend la décision d'écrire au moment de la grande tempête. Mmh. Alors, si ce narrateur est le même dans Fukushima, récit d'un désastre, il a bien de la chance, puisque du coup, c'est une autre tempête qui s'est levée à Fukushima. Mais vous avez raison de faire ce rapprochement, parce que finalement, effectivement, il y a une sorte de typhon qui passe dans l'écriture.
L'écriture comme conductrice d'énergie.
Exactement. Ça, j'y crois, mais très profondément. Il y a sans doute d'autres moyens, d'autres méthodes, d'autres manières de voir l'acte d'écrire, évidemment. On peut le considérer comme finalement une thérapie, on peut le considérer comme un moyen d'analyse, un moyen de calmer les choses, de procéder à une réflexion sur soi, une réflexion sur le monde qui nous entoure, etc., etc. Tout ça est vrai. Il n'empêche, en ce qui me concerne, écrire vient là comme une éruption, comme un séisme, oui, comme un cataclysme, quelque chose qui tremble et qui vous met en mouvement, soit sous le coup d'une injustice, d'une colère, d'une émotion, d'un amour. Écrire, pour ma part, un rapport profond, l'acte d'écrire a un rapport profond avec cette énergie-là.
Et vous la posez, la question d'écriture dans Fukushima, récit d'un désastre, lorsque vous demandez ce qu'on peut écrire devant une beauté ou une catastrophe hors norme.
Oui, je me suis posé la question, évidemment. Je ne me suis pas posé la question de savoir si j'allais écrire un livre qui s'appellerait ou non Fukushima d'ailleurs, mais si j'allais écrire un livre sur ce qui m'arrivait, sur ce qui était en train de se passer, sur ce qui m'arrivait à moi et ce qui arrivait à des milliers, à des millions de gens en même temps. Donc je ne me suis pas posé la question un peu banale, un peu bateau, est-ce que j'écris, est-ce que j'ai le droit d'écrire, est-ce que je... Ça, non, j'ai pris la décision très vite. Et d'ailleurs, je n'ai pas pris la décision, elle s'est imposée à moi, ce livre s'est imposé à moi avec une sorte d'évidence.
Et la question, c'est plutôt que peut-on écrire ?
Voilà. En revanche, voilà, ça c'était une vraie question, c'est-à-dire que quand on se permet de prendre son stylo et de commencer à écrire sur cet événement, sur ce désastre, à mon avis, là oui, il y a une question à poser sur le genre, sur la manière dont on va décrire les choses. Par exemple, j'avais, comme beaucoup de gens, commencé par écrire un journal. Et finalement, je me suis dit, c'est pas le bon genre, pour moi en tout cas. Parce que quand je faisais cette petite chronique chaque jour, c'est très utile, un journal, ça a bien des avantages. Ça permet de chroniquer ce qui se passe, de suivre l'évolution de la situation, de suivre aussi ce que la situation révèle en nous, ou réveille en nous. Donc le genre du journal avait des avantages, mais il m'est apparu très rapidement comme une facilité. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'en suivant au jour le jour le déroulé de la catastrophe, eh bien, je perdais le contrôle. C'est-à-dire que c'est la catastrophe qui m'imposait son rythme, son calendrier, son tempo. Et c'est exactement l'inverse que je voulais faire. C'est-à-dire, je voulais reprendre la main, comme on le dit. L'expression dit bien ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire, reprendre la main, pour le coup, c'est un travail d'écrivain. Je voulais reprendre la main sur ce qui était en train de se passer. Je voulais le décrire de manière la plus juste, la plus précise possible, et je voulais commencer à penser l'événement. Et d'écrire et penser l'événement, pour moi, ça allait ensemble. On arrive à penser ce genre d'événement que si on arrive déjà à le décrire, à le poser sur le papier.
Oui, mais la question, que peut-on écrire, que peut-on dire, ne cessait de vous tarauder quand vous avez fait le voyage de Fukushima avec votre ami Jun.
Oui.
Et c'est à Matsushima que vous avez eu la réponse.
Oui, enfin, c'est un des endroits qui m'a donné la réponse. La question, que peut-on écrire ? Ben oui, elle se pose. Matsushima, c'est un des, dans la nomenclature officielle des paysages au Japon, c'est un des trois plus beaux paysages du Japon. Il est classifié ainsi, et c'est un paysage qui, depuis très longtemps, attire les poètes, notamment les poètes de haïku. Basho et bien d'autres sont passés par là.
Un paysage heureusement préservé.
Alors un paysage qui a été préservé alors que le tsunami a frappé exactement à cet endroit. Sauf que Matsushima est un paysage de petites îles éparses. Et ce que je note dans le livre, c'est que c'est très étonnant parce que on avait installé sur toute la côte du Tohoku, c'est-à-dire de cette région qui a été dévastée par le tsunami, on avait installé depuis longtemps du béton, des tripodes, des tétrapodes, des murs, des enceintes, des choses assez laides à vrai dire, et qui étaient censées protéger du tsunami, et qui se sont transformées parfois, en ce qui concerne notamment les tétrapodes, en des espèces de boulets de béton qui ont été propulsés à l'intérieur des terres et qui ont fait des victimes. Donc ce qui était censé protéger d'une manière massive, d'une manière bétonnée, d'une manière grise aussi, tout ça fait un paysage souvent très grisâtre, un paysage de béton. Ce qui était censé protéger, non seulement n'a pas protégé, dans ce cas précis, hein, dans d'autres endroits évidemment, ces appareils ont tenu leur rôle, mais non seulement ça n'a pas protégé, mais des fois ça a ajouté à la catastrophe. Or, dans le cas de Matsushima, c'est étonnant, mais c'est tout simplement la configuration naturelle des lieux qui a littéralement découpé le tsunami en tranches. C'est-à-dire que ce sont des petites îles éparses, comme je le disais, des petits îlots rocheux qui ont finalement empêché la vague de prendre cette ampleur et de déferler avec la violence où elle a déferlé ailleurs.
Et vous êtes dit qu'il fallait que... En écrivant, vous fassiez un peu la même chose, c'est-à-dire que vous écriviez par îlot ou par estuaire.
Exactement. Il y a quelque chose qui me paraissait un peu symbolique dans cette histoire, c'est que finalement, quand on écrit, il y a un côté artificiel de l'acte d'écrire. On pose aussi des digues, on choisit des mots, des tournures de phrases, on syntaxe, si j'ose dire. Donc on fournit une armature, un corset. Mais finalement, la vraie manière d'écrire, à mon avis, c'est pas ça. La vraie manière d'écrire, évidemment, ça passe par tout cet appareil rhétorique ou théorique, cet outillage de mots et de grammaire. Mais finalement, et on en revient à ce dont on discutait tout à l'heure, finalement, la vraie manière d'écrire, à mon avis, c'est de retrouver cette espèce d'énergie, pour le coup, naturelle, qui peut vous transporter au moment de tracer une phrase.
Mmh. Alors, vous n'avez pas oublié Bachot et vous n'avez pas oublié Hoé, qui vous ont fourni, au fond, votre discours de la méthode.
Exactement. La méthode, donc le chemin, comme on dit en grec. Hein. Oui, c'est Hoé, Bachot. D'une manière générale, quand une catastrophe d'une telle ampleur survient, on pense tout de suite à, et c'est ce que j'ai fait aussi d'ailleurs, à apporter des médicaments, des vêtements, des vivres, de l'eau. Et c'est bien normal. Mais il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que pour porter secours à des gens, et notamment aussi pour leur permettre de reconstruire ensuite, eh bien, il ne faut pas oublier cet aspect-là, qui est l'aspect symbolique. Il faut apporter aussi des livres, il faut apporter des mots, il faut savoir mettre des mots sur ces souffrances, sur ces tourments, sur ces problèmes. Sinon, on reste dans une aporie complète, et tous les médicaments du monde n'y pourront rien.
Alors, pour... reparler de Kenzaburo Oe, lui parlait d'Hiroshima, vous de Fukushima, et il y a une grande différence entre Hiroshima et Fukushima.
Il y a plusieurs différences entre Fukushima et Hiroshima. En dehors de la rime, rime sinistre, je crois que c'est Jean-Luc Nancy, je crois que dans son dernier livre qui dit ça, la rime sinistre Fukushima-Hiroshima. En dehors de cette rime, ce sont évidemment deux événements qu'il convient de distinguer. Pour pouvoir les penser. Fukushima, c'est une catastrophe d'abord naturelle, un séisme, un tsunami. Ensuite, c'est une catastrophe humaine. L'accident nucléaire n'est pas une catastrophe naturelle. C'est une catastrophe d'un autre ordre, d'une autre dimension.
C'est un acte de guerre.
Alors que Hiroshima, c'est un acte de guerre, exactement. Donc, effectivement, de ce point de vue, si on veut faire des rapprochements, de ce point de vue-là, le rapprochement est hasardeux ou douteux. Cependant, je crois qu'il faut aussi savoir, il faut avoir cette mémoire d'Hiroshima quand on pense Fukushima. Parce que finalement, et ça, on le voit bien quand on lit les notes de Hiroshima d'Oe, finalement, la problématique n'a pas énormément changé par rapport au nucléaire. C'est-à-dire que tout ce que Oe dénonçait dans les années 50, la désinformation, la manipulation des opinions, ce que j'appelle l'immense Kaamelott du nucléaire, tout ceci qu'on pouvait déjà dénoncer dans les années 50, finalement, et ben, y a pas grand-chose qui a changé. Et à ces noms de Hiroshima et de Fukushima, il convient sans doute d'en adjoindre un troisième qui est celui de Tchernobyl. Donc ces trois événements, qui sont très différents à bien des égards, ça je n'en disconviens pas, ces trois événements quand même, ils posent ce problème aujourd'hui quand même essentiel. Comment vivre dans une société qui a fait le choix de l'énergie nucléaire? C'est un vrai problème et qui se pose et qui va se poser, je pense, de plus en plus dans les années à venir. Mmh. De ce point de vue-là, Fukushima ne fait que commencer.
Oui. C'est-à-dire le royaume des morts.
Le royaume des morts ou des morts vivants ou de la demi-vie. Donc, mais je pense qu'il faut vraiment avoir à l'esprit cela. C'est-à-dire, après Tchernobyl, on a pensé... Maintenant, on a compris que c'est dangereux, on a compris que ça peut quand même non seulement dévaster des paysages, mais les rendre inhabitables pour des siècles. Donc après Tchernobyl, on pouvait penser que c'était, bon, qu'on allait en prendre un peu de la graine, comme on dit. Mmh. Eh bien, ça recommence. Et Fukushima, nous sommes à peu près un an après la catastrophe, et on voit ici et là ressortir quelques discours soigneusement argumentés, soi-disant, rationnels, raisonnables. Faut quand même, voilà, c'est là où la mémoire et de Hiroshima et de Tchernobyl et de Sumai Island et de tous ces accidents ou incidents qui ont eu lieu et qui jalonnent quand même l'histoire de cette énergie, c'est là où garder la mémoire est importante.
Alors tout au long de ce parcours qui est votre récit, Michaël Ferrier, vous notez des formules ou des phrases très fortes que vous entendez, des choses vues et entendues. Par exemple, ce fermier qui vous dit qu'il ne croit plus rien de ce qu'il entend dès qu'il s'agit de radiation et qui a cette formule très forte, je veux creuser un trou dans la terre et crier.
Oui. Eh bien, il y a plusieurs formules, comme vous le notez très justement. J'ai voulu donner la parole à ces gens. On leur donne finalement assez rarement la parole. On parle sur eux, on parle à leur place. J'ai voulu tout simplement, moi, y aller, les écouter et essayer de retranscrire aussi modestement et aussi justement que possible ce qu'ils m'avaient dit. Et ce qu'ils me disaient était impressionnant de justesse, finalement. Vous savez, la plupart de ces gens que j'ai rencontré des tenanciers de bars, de cafés, de bistrots, des agriculteurs, beaucoup d'agriculteurs, des industriels, des vieilles femmes. Il y a beaucoup de personnes âgées dans cette région du Japon. Ouais,
vous citez d'ailleurs une note laissée par une vieille femme de 93 ans qui s'est pendue dans son jardin.
Exactement, qui s'est pendue à un âge très avancé. Et donc tous ces gens ne sont pas des intellos, ce n'est pas des intellectuels, c'est des gens qui ont des conditions sociales très variées. Et un discours quand même revenait... à plusieurs reprises, sous des formes différentes, hein, avec des nuances, mais tout de même un discours de méfiance, de prudence, par des gens qui savaient exactement de quoi ils parlaient. Mmh. On parle beaucoup du nucléaire, on parle beaucoup de Fukushima, sans y avoir mis les pieds, en faisant semblant d'y avoir mis les pieds pour certains responsables politiques que je ne nommerai pas, on est dans l'actualité là, mais finalement, les gens qui, eux, ont vécu et continuent à vivre aujourd'hui, Fukushima, c'est pas terminé, hein, ça continue, les menaces pèsent toujours sur l'environnement. Eh bien, eux, ils ont ce discours-là, et il faut les entendre, il faut les écouter.
Il y a un monsieur K, par exemple, que vous citez, vous ne donnez pas son nom.
Non.
Pour ne pas lui attirer d'ennui. Parce que c'est un liquidateur de Fukushima,
oui.
Et il vous dit, dites-leur bien, pleurer ne sert à rien. Si nous sommes en enfer maintenant, tout ce que nous pouvons faire, c'est de remonter à tâtons à la surface.
Oui, quand j'ai rencontré plusieurs liquidateurs, j'ai décidé donc de retranscrire ou d'exprimer donc l'opinion, ce que celui-ci m'avait dit. J'ai été frappé quand même par le courage d'abord de ces gens, l'inconscience pour certains d'entre eux, inconscience d'ailleurs entretenue quelquefois, parce que ce sont souvent des sous-traitants qui ne savent pas forcément où ils vont et dans quel environnement ils vont évoluer. Mais ce qui m'a frappé, c'est que c'était manifestement, ce sont des guerriers, c'est ça. On est toujours d'une certaine manière dans une situation de guerre. Ça m'a fait penser, alors il était d'un calme imposant, hein, d'un calme olympien, pourrait-on dire, cet homme qui pourtant risquait sa vie. Et ça m'a fait penser un peu aux soldats de 14, vous savez, les poilus, qui allait au front, qui était sous l'enfer, qui était dans l'enfer de feu, dans le déluge de feu, et qui, sous ce déluge, disait « Ah là là, pourvu que l'arrière tienne !» Donc, il y avait quelque chose de cet ordre-là, de ce courage-là dans, chez ce liquidateur. Oui.
Mais là, c'est la surface. Est-ce qu'elle tient, la surface ?
Ben ça, l'avenir le dira.
Vous dites que les chiffres de la radioactivité ne veulent plus rien dire, si ce n'est qu'ils sont entrés dans l'incommensurable, dans l'incalculable.
Exactement, oui. Mais ça, c'est vérifiable. Hein, au bout d'un moment, toutes ces informations, ce déluge d'informations, on n'a pas seulement eu un tsunami, on a eu aussi un tsunami d'informations, un tsunami d'images également. Au bout d'un moment, on voit bien que tout cela n'apporte plus grand-chose et au contraire n'entretient que la confusion. Mmh. Et cette confusion généralisée des chiffres, elle est à l'œuvre ici, dans le cas du désastre de Fukushima. Elle est à l'œuvre aussi plus largement, et c'est là où Fukushima est aussi c'est un événement historique révélateur. Cette confusion des chiffres, cette espèce d'énorme, d'immense désordre de chiffres jetés à la tête des gens, dans les radios, dans les télévisions, sur les plateaux. Cette confusion généralisée des chiffres, elle est quand même exemplaire de ce qui est en train de se passer dans le monde où nous vivons, où, prenez dans un domaine complètement différent, celui de l'économie, la dette, où on nous annonce également le même genre de chiffres complètement astronomiques, dont finalement on ne sait plus trop ce que ça veut dire, et est-ce que ça veut encore dire quelque chose.
La confusion généralisée ne concerne pas seulement les chiffres, même les morts sont en première ligne, là, puisque les morts de Fukushima ne sont plus des morts.
Oui, ce ne sont plus des morts parce que, tout simplement, on ne peut plus les enterrer. Non, parce qu'au Japon, normalement, on incinère. C'est la crémation qui est la méthode la plus utilisée au Japon. Mais il faut bien comprendre que quand vous êtes mort, si j'ose dire, dans une zone radioactive, hautement radioactive, on ne peut pas brûler votre corps parce que les cendres elles-mêmes seraient radioactives. Donc là,
les morts sont des déchets nucléaires.
Les morts sont des déchets radioactifs. C'est terrible à dire, mais c'est vrai. Et là, on est quand même devant quelque chose qui, à la lettre, dépasse l'entendement et les capacités même de symbolisation de l'être humain. Le nucléaire, d'ailleurs, fonctionne dans cet ordre-là de l'incalculable. Si on prend les échelles de temps du nucléaire, c'est quelque chose qui, à la lettre, est inimaginable, des déchets radioactifs pour des milliers d'années. On ne sait même plus l'imaginer. Donc c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible ou de l'impensable.
Alors une centrale nucléaire, ce n'est pas le sommet de la technologie humaine.
Non, on le voit bien dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un incident. Tout ce qui nous était présenté comme un laboratoire high-tech, des méthodes et des techniques les plus à la pointe, tout d'un coup, ça se transforme en des histoires de plomberie, en des hélicoptères qui arrosent des réacteurs nucléaires avec des seaux d'eau, il faut le faire quand même. Moi, j'appelle ça la Camelot navrante du nucléaire dans le livre. Et j'utilise le mot navrant dans son sens moderne, mais aussi dans son sens médiéval, dans le sens de l'ancien français. Navré voulait dire blessé. Il y a quelque chose de l'ordre de la blessure, de l'agression dans cette technologie. Mmh. Il faut le dire et le répéter. J'ai l'impression un peu parfois de radoter quand je dis ça. Mais j'ai l'impression qu'en France notamment, où on m'a invité à de nombreuses reprises, et vous aussi aujourd'hui, et je vous en remercie, on m'a invité à parler de ces problèmes, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mur, soit d'incompréhension, soit d'indifférence, où on nous dit « c'est pas si grave ». On a presque l'impression, et ça je regrette de devoir le dire, mais quand même, on a presque l'impression qu'il faudrait un accident ou un incident un peu grave pour que les gens se rendent compte. C'est terrible de dire ça. Est-ce que on peut quand même commencer à penser ces problèmes, à les évaluer, à proposer des solutions? Les solutions sont sans doute complexes, les décisions politiques sont longues et sont difficiles à prendre. Mais est-ce qu'on peut quand même commencer à poser le débat? Voilà, c'est la question que je pose, sans attendre qu'un accident ou qu'un incident un peu grave le fasse pour nous.
En fait, d'aller de l'avant, vous dites que nous en sommes arrivés ou revenus au stade météorologique de notre histoire. C'est-à-dire que nous confions notre destin au vent, aux vagues. Le problème avec l'horreur nucléaire, c'est que lorsque la pluie tombe, ce n'est plus de la pluie. Lorsque le vent souffle, ce n'est plus le vent.
Exactement. Alors, j'ai écrit cette phrase notamment parce que, vous le savez peut-être, mais la ville de Tokyo, entre 30 et 35 millions d'habitants quand même, a failli être évacuée. C'était vraiment, pour le coup, là, c'était une question de force et de direction des vents. Est-ce que nous voulons d'une société comme ça? Est-ce que nos choix énergétiques, si choix il y a, parce que le nucléaire en France, comme dans beaucoup d'autres pays, n'a pas fait l'objet d'un choix démocratique, est-ce que nous voulons d'une société de ce genre? C'est finalement la seule question qui se pose. Elle est assez simple.
Mmh. Donc le pire n'est pas devant nous?
Il est déjà là. À Fukushima, il est déjà là, c'est évident. Ouais. À Fukushima et dans les environs, les océans, vous parliez de la pluie, de l'eau, les océans sont extraordinairement contaminés tout de même.
Alors il y a un auteur que vous citez à la fin de votre livre, enfin vous en citez quelques-uns, mais un en particulier, Guy Debord, qui, bien des années avant tout le monde, avait prévu, dites-vous, ce qui est en train de nous arriver.
Oui, j'ai découvert ces textes de Debord, je lisais Debord depuis longtemps, mais c'est vrai que ces textes-là ne m'avaient pas frappé. Je les ai redécouverts à l'occasion de cette catastrophe et j'ai été frappé par sa lucidité. Il avait annoncé avec des années d'avance et en payant le prix, c'est-à-dire qu'à l'époque surtout, il pouvait très facilement passer pour un paranoïaque. Eh bien, il l'a écrit, et finalement, ce qu'il a écrit est en train de se réaliser sous nos yeux. Oui.
Le livre de Michaël Ferrier, Fukushima, récit d'un désastre, est publié chez Gallimard dans la collection L'Infini. Du jour au lendemain, Stéphane Desmonts, Anne Franchini, Didier Pinault, Alain Weinstein. Bonsoir.